La guerre en Ukraine, on y vient avec ce soir une question. Les mères russes, les mères, les épouses vont-elles faire trembler Vladimir Poutine? Les manifestations de mères et d'épouses se multiplient partout en Russie pour dénoncer les conditions dans lesquelles les hommes sont envoyés au front. On a, Pauline Simonet, de plus en plus d'images de manifestations aux quatre coins du pays.
Oui, effectivement, hein, ces mères russes, elles font entendre leur voix de plus en plus fort à travers les réseaux sociaux, notamment à travers Telegram, depuis la mobilisation fin septembre. Il y a de plus en plus de messages, effectivement, très émouvants. On voit des femmes, toujours ces mêmes messages, qui lisent donc des messages et qui s'adressent en général directement à Vladimir Poutine, et elles dénoncent les conditions catastrophiques de leurs proches sur le champ de bataille, comme les femmes notamment d'une région du sud de la Russie. Écoutez ce qu'elles disent.
Je m'adresse à tous ceux qui peuvent nous aider. Nos maris, nos fils, nos frères ont été mobilisés dans l'oblast de Voronej. Ils sont jetés sur la ligne de front. Ils n'ont pas la possibilité de battre en retraite, car sinon, ils seront abattus par les leurs.
Ils n'ont rien, seulement des fusils d'assaut. C'est comme s'ils étaient nus. Ils disent que leurs commandants ont battu en retraite. Ils demandent à la population locale de les aider, car ils sont là comme chair à canon.
Voilà, des vidéos comme celle-là, il y en a des dizaines, hein, où les femmes réclament le retour de leurs proches. On va voir une autre vidéo où on voit des mères qui brandissent notamment une pancarte sur laquelle il est écrit « Laissez nos enfants, nos étudiants retourner à leurs études ». Et l'une d'entre elles interpelle directement Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine, je vous en prie, ramenez nos enfants. Il y a trop de morts et de prisonniers.
Et face donc à l'afflux de ces messages, qui embarrasse réellement le Kremlin, Vladimir Poutine devrait recevoir certaines de ses mamans ou épouses de combattants à l'occasion de la fête des mères qui a lieu le 27 novembre en Russie. Certaines dénoncent déjà une opération de communication. Ce ne seraient pas des vraies mamans qui seraient conviées, mais des femmes triées sur le volet pro-Kremlin. C'est ce que dit la fondatrice du Conseil des mères et des épouses de soldats. Écoutez.
Par tous les moyens, nous essayons d'appeler au dialogue avec les autorités, pour que ce ne soit pas juste des échanges fake, mais pour que les autorités répondent vraiment à nos questions. Vladimir Poutine, vous êtes un homme ou pas? Aurez-vous le courage de nous rencontrer directement, ouvertement?
On voit en tous les cas que pour le Kremlin, c'est difficile d'ignorer les voix de ces maires qui ont un écho particulier en Russie.
Merci Pauline, on va en parler avec vous ce soir. Bonsoir Pierre Servent, merci d'être là, expert en stratégie militaire et spécialiste des questions de défense, auteur de ce livre, Le Monde de Demain, aux éditions Robert Laffont, avec une hypothèse que vous mettez sur la table ce soir, et on va en parler dans une seconde, ça rejoint un peu ce dont on parle là, je garde le suspense pour l'instant. Patrick Sauce, bonsoir.
Bonsoir Maxime.
Merci d'être là, éditorialiste politique international. Michel Goya et Elsa Vidal sont de retour dans ce studio. Pierre Servent, est-ce que ces maires peuvent faire trembler Poutine?
J'en sais rien. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ce qui est frappant, c'est que ça puisse exister et que tout ça aille rencontrer d'autres mouvements de protestation. Donc, il y a un bruit de fond. Mais il faut rappeler que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. C'est 30 fois la France. C'est toute une série de... Il y a 21 républiques de mémoire. Les oblasts, les villes, des villes particulières comme Saint-Pétersbourg et Moscou qui ont des statuts particuliers. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas enquêter librement, on ne peut pas aller faire de véritables enquêtes pour savoir ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Ce qu'il y a, c'est que les protestations portent plutôt sur le fait de demander un meilleur équipement que de dire arrêter la guerre. Donc c'est quand même un élément qui est assez important. Mais voilà, donc moi je suis très très prudent sur tout ce qui se passe en Russie, sur les complots, sur la maladie de Poutine. Je crois que globalement, non seulement je n'en sais rien, mais je crois que personne véritablement n'en sait grand-chose, parce qu'il faudrait être à l'intérieur, il faudrait que ce soit une démocratie. Or, c'est un régime de plus en plus totalitaire, et donc c'est assez difficile d'aller véritablement cuisiner, entre guillemets, comme les uns les autres nous le faisons, les responsables au pouvoir au Kremlin.
Mais il y a quand même ces images de plus en plus nombreuses qui nous arrivent. Il y a ce que l'on sait aussi, c'est qu'effectivement, les médias nationaux n'en parlent pas, ça n'existe pas.
Non, après, on nous donne à voir ces images. Je fais comme ça parce qu'en fait, on ouvre un peu, et à vitesse et à température tiède, le robinet de la... communication en laissant un peu d'humanité. Effectivement, il s'agit de protester contre les conditions et, au pire ou au mieux, demander le retour des soldats et pas la fin de la guerre. Ensuite, là où ça peut jouer, c'est quand même sur le moral ambiant des troupes. On vous parle du moral des troupes ukrainiennes avec la nécessité de résilience chez les Ukrainiens qui sont privés de courant. Et bien là, ça peut jouer quand même sur le moral des troupes, mais c'est un petit travail de sape. Et le fait qu'on nous donne à voir ces images trois jours avant la fête des mères russes, bon, voilà, il ne faut pas y voir que des coïncidences. Alors,
on verra dans un instant la réponse, d'une certaine manière, et de Poutine et du gouverneur d'Irkoutsk, qui a reçu certaines de ces mères. Mais simplement, pour avoir le contexte, Elsa Vidal, la figure, cette figure-là, ces figures-là, des mères de soldats, c'est une figure, comment dire ça, classique en Russie. Il y en a eu pendant les guerres de Tchétchénie, etc., qui venaient se plaindre et à qui, je refais le geste, on laissait la parole... avec parcimonie.
Oui, et même pendant la guerre, en fait, qui n'avait jamais été reconnue comme telle, hein, l'opération spéciale russe en Afghanistan, enfin soviétique en Afghanistan, il y avait ces comités des mères de soldats qui étaient qui étaient le plus proche d'une société civile dans cet espace soviétique. C'est effectivement réactiver à la fois cette image, montrer qu'on en tient compte, et si effectivement une rencontre se tient dimanche, qui est fort probable, montrer que le pouvoir est accessible aux desiderata de la société. Ce qui se dit déjà, c'est que probablement on irait vers une constitution d'un comité des mères de soldats bis, qui serait en fait ce qu'on appelle des, enfin, c'est-à-dire comme l'opposition autorisée, un comité autorisé, qui aurait pour finalité de canaliser une forme de mécontentement et de pouvoir donc faire en sorte qu'il ne s'oppose pas directement au pouvoir. Donc il faudra voir ce qui sera possible pour ce comité, sachant que le comité historique des mères de soldats est quand même une organisation très empêchée dans son fonctionnement, soumise à des tracasseries administratives comme tous les régimes autoritaires en ont le secret. Voilà.
Bon. Une image à vous montrer, cette scène, donc, des mères de soldats qui viennent se plaindre auprès du gouverneur d'Irkoutsk. Voici ce qu'il leur répond.
Et quand je suis entré dans l'armée, ma mère m'a dit une phrase merveilleuse. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appartiens plus, tu appartiens à la patrie.
Tu ne m'appartiens plus, père servant, tu appartiens à la patrie. C'est la réponse des officiels russes aujourd'hui à ces mères qui viennent se plaindre.
Bah oui, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est qu'on a le choc assez hallucinant entre une armée de type soviétique qui a pas bougé, donc cette espèce de fantôme du passé à tout point de vue, y compris par rapport aux crimes de guerre qui ressort, avec une armée ukrainienne qui est une armée 2.0 avec une population, notamment les jeunes combattants, qui fonctionnent selon les principes du collaboratif, qui est une armée moderne, dans laquelle les différentes armes, c'est-à-dire l'infanterie, l'artillerie, l'arme blindée cavalerie, le génie, travaillent ensemble, alors que du côté soviétique, on a un truc en silo.
Vous continuez à dire soviétique.
Ouais, c'est ça, parce que ça fonctionne comme ça. Si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est un État qui n'a pas purgé ses crimes et ses miasmes. Donc ce sont des choses qui arrivent dans les familles, quand vous avez des secrets cachés, des trucs qui n'ont pas été réglés, ça ressort. Donc là, c'est au niveau d'un État colossal et avec des crimes colossaux durant son histoire, ça ressort, et donc on essaye de mettre là-dessus des petits sparadraps du type la patrie, la grande guerre patriotique de 41, en oubliant ce qui s'est passé de 39 à 41. C'est-à-dire que dans les années 30, Le surnom qui était donné par les Européens à la Russie soviétique, c'était le pays du grand mensonge. Donc on est toujours là-dedans, et le mensonge dissout, alors ça crée des rideaux de fumée, si vous voulez, momentanés, mais après il y a le réel qui se venge. Et le problème, c'est que dans les systèmes totalitaires ou dictatoriaux, plus le réel se venge, plus on allume des rideaux de fumée, on sort des fumigènes dans tous les coins. Bon, ça dure ce que ça dure. Là, je suis pas sûr que le public était très impressionné par sa réflexion.
Mais justement, j'en viens à l'une des hypothèses que vous mettez sur la table. Je vous cite, Poutine pourrait vouloir jouer l'affaire à l'ancienne. L'affaire, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous appelez jouer l'affaire à l'ancienne ?
À la papa. C'est-à-dire qu'il y a là aussi un paradoxe que je souligne, c'est que on parle beaucoup du nucléaire, du recours au nucléaire. Poutine s'en sert, il s'en est servi en 2014 pour pouvoir annexer la Crimée en essayant de terroriser les Occidentaux, en faisant fuiter des fausses conversations entre des généraux disant qu'ils pourraient recourir au nucléaire. Et paradoxalement, ce qu'il prépare, lui, dans la mesure où il n'a pas changé d'iota sur ses objectifs de guerre, faut bien comprendre ça, il n'a pas dételé. Toutes les déclarations publiques du Kremlin vont toutes dans le même sens. Mais le problème, c'est qu'il n'a plus les chaînes d'armement, il n'a plus les composants électroniques, il n'a plus les pièces qui venaient d'Europe. Donc, la jouer à la papa à l'ancienne, c'est à la soviétique. Donc, de la poitrine, de la chair humaine.
On envoie des hommes.
Des réservistes. Et puis, vous savez, il y a des images qui montrent que vous avez des combattants qui sont équipés d'un fusil que les spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale connaissent bien, qui est le Mosin Nagant. Ouais. C'était le fusil de dotation, c'est le Lebel, si vous voulez, de l'armée russe. C'est des fusils qui ont été retirés du service soviétique en 1960. Eh bien, ils les ont ressortis. Et en fait, ce que fait Poutine en ce moment, c'est qu'ils sont en train d'aller sortir de tous les hangars, de la profondeur stratégique russe, tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et il dit, de toute façon, les Européens, entre guillemets, sont des femmelettes, ils finiront par craquer. Les Ukrainiens, on est en train de les hacher menus progressivement. Ce sont crimes de guerre, ce crime de guerre. Et puis nous, après, on va ressortir la martingale qui nous a fait gagner face à l'Allemagne nazie, de la poitrine, du matériel vétuste, et finalement, on y arrivera. Je pense que c'est le calcul, et c'est ça, faire la guerre à l'ancienne, à la papa.
Je vous cite, je vais vous citer, et je vais livrer cette citation au colonel Goya et à Patrick Sauce. Deux points, voilà, guillemets, c'est Pierre Servan qui parle. Le rêve fou de Poutine serait alors de rejouer l'ère de la Grande Guerre patriotique contre les nazis en déversant sur les forces ukrainiennes des tombereaux de corps pour les étouffer.
Oui. Non, mais bien sûr. Non, mais... ce qui est paradoxal, c'est qu'on était dans un schéma qui était quand même complètement inverse au début de la guerre. C'est-à-dire, on était dans une situation où, au contraire, il s'agissait de préserver autant que possible la société russe de cette guerre. Et même d'ailleurs dans les conflits précédents, en Syrie, on n'en voit que des volontaires, des professionnels, partout, ou Wagner, qui sert un peu de substitut, qui sert un peu de chair à canon en substitut des, j'allais dire, des bons russes. Et donc, il y avait cette situation assez inédite où, au contraire, la société russe était plutôt préservée des conséquences de la guerre. Et là, effectivement, on peut assister à une inversion complète, un retour au passé, aux méthodes du passé. Alors après, on peut se demander pourquoi simplement une mobilisation partielle, hein, pourquoi ne pas avoir mobilisé tout le monde d'un seul coup et avoir y être allé quand même de manière assez progressive. Et ce qui m'étonne aussi, c'est qu'en réalité, rien n'a été préparé pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'on fait ça dans la totale improvisation, quoi. Ce qui me paraît complètement fou, hein, d'ailleurs, au bout de X mois de guerre, que personne n'ait dit, tiens, si on organisait quelque chose qui ressemble à une mobilisation.
Mais donc, ça veut dire, Pierre Savant, des centaines de milliers d'hommes, des millions d'hommes déversés sur l'Ukraine?
Alors, des millions, je n'irai pas jusqu'à là. On a 320 000 réservistes. Avec des niveaux extrêmement différents. Poutine pourrait peut-être chercher à entraîner une partie de ses réservistes qui ont un niveau à peu près zéro, pratiquement, en Biélorussie, avec l'idée, au début de l'année prochaine, pour l'anniversaire de l'invasion, enfin, de ce qu'ils appellent la guerre, l'opération spéciale, de refaire une attaque vers le nord à partir de ces unités qui seraient formées éventuellement assez sommairement au combat d'infanterie, un peu d'appui, enfin des choses assez simples. Ça pourrait être ça son esprit, mais toujours avec l'idée de dire voilà, les Ukrainiens ils tiennent à la vie, ils font attention à c'est un peu le combat entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Là où il y a une asymétrie, c'est que en Israël la vie d'un soldat c'est extrêmement important. Le Hezbollah, il s'en fiche. Donc, Poutine va la jouer à l'envers, pourrait la jouer à l'envers dans ce sens-là.
Patrick Sauce.
Oui, alors, les hommes, ça, il peut en trouver. De l'équipement, c'est un peu plus difficile. D'ailleurs, les autorités, le Kremlin l'a dit, il n'est pas question. Alors, on sait très bien ce que vaut la parole du Kremlin, mais Peskov a dit, il n'est pas question de lancer une nouvelle mobilisation, ce qui veut dire que c'est tout à fait possible. En revanche, il a poursuivi sa phrase en disant, on ne peut pas le faire pour l'instant parce qu'on n'a pas d'équipement. Alors, les usines textiles sont plus facilement, elles peuvent être plus facilement mises en branle, si je puis dire, que des usines de canons ou de chars, mais tout de même, c'est ce qu'il va manquer. Et ces hommes, il faut non seulement les équiper, alors on peut trouver des vieux si on veut, mais il faut aussi les nourrir, il faut aussi les emmener, les entraîner, même si les formations se font de façon express, parfois 9 heures, 10 jours, et il faut les encadrer. Et pour les encadrer, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du galon.
Il faut du galon.
Et les galons, il faut les trouver là aussi.
Je vous donne la parole dans une seconde, Elsa Vidal, mais je voudrais vous soumettre ce que dit ce soir Vladimir Poutine, qui est visiblement conscient, notamment des lacunes en termes d'équipement, qui est peut-être aussi conscient de ce qui se passe du côté des mères de soldats, on en parlait tout à l'heure avec Pauline. Voici ce que répond ce soir Vladimir Poutine.
Il n'est pas nécessaire d'introduire des mesures extraordinaires, mais il est nécessaire d'établir un travail clair, de qualité et bien coordonné. C'est généralement utile. Mais dans cette situation, c'est simplement nécessaire pour fournir à nos forces armées tout ce qui est nécessaire lors d'une opération militaire spéciale en temps opportun. Je le répète, toutes les questions sont importantes ici, y compris l'équipement, les munitions, les médicaments et l'allocation monétaire pour le personnel militaire, les travaux de construction à des fins militaires et bien sûr, cela s'applique à l'équipement militaire spécial. Dans le même temps, je souligne qu'il est important pour nous non seulement d'augmenter le volume et la gamme des livraisons, mais aussi d'améliorer les caractéristiques de qualité des produits. C'est pourquoi la connexion directe des fabricants et des centres de construction avec ceux qui utilisent cet équipement est si importante.
Bon, il y a beaucoup, Elsa Vidal, de circonvolution, ça part un peu dans tous les sens, mais on repart quelques mots. Clé, il a conscience visible, en tout cas il dit, il a conscience qu'il y a des problèmes d'équipement, des problèmes d'allocation, de salaire pour les soldats, etc. Poutine a conscience de ça.
En fait, ce qu'il dit, c'est que non seulement il en a conscience depuis plus de 3 semaines, voire même 1 mois, et qu'indépendamment de ses précédentes prises de parole, ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé du fait de l'armée, sans doute, mais pas seulement, en fait. Ce qui laisse entendre aussi, c'est qu'il pourrait y avoir une mise au service de certains pans de l'économie au service de la guerre, c'est-à-dire l'activation d'une partie de l'économie en termes d'économie de guerre à proprement parler, ce que la mobilisation qui n'est pas terminée du point de vue juridique permet, ce que l'activation aussi de certains niveaux de sécurité dans le centre de la Russie permet également. Et puis surtout, bon bah, il donne des directives, ce qui veut dire que ce n'est pas lui qui est responsable de leur incomplétude, du fait qu'elles ne sont pas mises en œuvre. Donc on est quand même dans une répétition étonnamment de la parole présidentielle qui donc aurait perdu de sa force.
Pierre Servent, le problème c'est qu'il y a un gros souci derrière tout ça, vous le racontez dans votre livre, c'est que votre guerre à l'ancienne, ce remake à 2 roubles de la Grande Guerre, c'est du Pierre Servent dans le texte, un remake à 2 roubles.
Michel Audiard.
Ouais, effectivement, il y a un petit côté Audiard. Vous dites, il y a un gros souci. Est-ce que les masses vont se laisser manipuler à nouveau? Est-ce que ce scénario-là d'une guerre à l'ancienne, de la guerre à la papa, où on envoie des centaines de milliers de soldats, est-ce que les masses russes vont se laisser manipuler?
Ben, c'est pas certain, parce que la grande différence avec la guerre patriotique de 1941, c'est que l'Union soviétique était envahie par son ancien allié nazi. Il faut rappeler que les deux pays étaient alliés et ont dépecé l'Europe de l'Est avec une grande complicité des deux côtés. Et que donc là, et la Russie, l'URSS a été envahie, matraquée, massacrée. Les prisonniers, en quelques mois, c'était des millions de prisonniers qui ont été traités comme des chiens. Puisque l'objectif des nazis, c'était de détruire l'empire judéo-bolchevique. Il y avait une véritable, un véritable projet du côté nazi de détruire. Et donc à ce moment-là, le pouvoir, Staline, les généraux qu'il est allé rechercher dans les prisons, ont pu galvaniser ce patriotisme parce que les gens étaient attaqués. Là, la grande guerre patriotique, elle est chez les Ukrainiens. Ceux qui sont injustement agressés par une force absolument impavide, c'est les Ukrainiens. Donc, pour reboucler avec le thème que vous avez abordé sur les parents, les protestations, etc., c'est peut-être pour ça d'ailleurs que pendant assez longtemps, au début de cette guerre qui a mal tourné pour les Russes, Poutine a dit à plusieurs reprises, on ne va pas mobiliser, ce n'est pas la peine. Enfin, il a marché à l'envers en reculons, d'où des scènes surréalistes où c'est intéressant parce que tout ce qu'il dit qu'il faut améliorer, c'est tout ce qui ne marche pas. Et donc, quand vous faites la liste, la shopping list, c'est un immense bordel. Donc voilà. Donc, je pense que tout ça, si vous voulez, je vois pas comment concrètement ça va pouvoir s'emboîter avec une réalité terrain qui n'est pas favorable. Juste un dernier point. Ce qui est très intéressant, ce qui se joue et c'est quelque chose qui nous parle, c'est que ce qui marche aujourd'hui sur le plan militaire là-bas, ce sont des systèmes démocratiques. Ce sont des combattants qui sont autonomes, qui savent pourquoi ils sont là. Et au combat, c'est important. De l'autre côté, vous avez une masse de gars qui a été balancée là-dedans. Il faut rappeler quand même que les premières recrues qui étaient désappelées du contingent, à qui on a fait signer un contrat, qui sont passées sur le Nord, quand ils sont rentrés dans cette opération spéciale, ils sont allés sur les sites de rencontre pour trouver des Ukrainiennes. Bon, ils se sont fait dessouder, et puis même ils se sont fait manipuler, puisqu'en fait, ils ont dialogué avec des jeunes filles qui avaient des photos ravissantes, sauf que derrière, vous avez des gros moustachus des services secrets ukrainiens qui les ont manipulés, qui ont pu comme ça les tracer et les faire détruire par des geeks des geeks qui n'avaient jamais vu un uniforme et qui ont mis à disposition des geeks et des fans de drones. Et avec le satellite, les systèmes de Starlink d'Elon Musk, ils ont mis une raclée aux Russes. Vous voyez, il faut comprendre, c'est ça, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que le choc auquel on assiste, c'est le choc de ces deux systèmes. Mais il n'empêche que le système poutinien, malgré ses échecs, a quand même des émules dans le monde entier.
Oui, effectivement, même si on va reparler dans une seconde de l'isolement de Poutine.
Oui, justement, j'ai rebondi quand vous parliez de la Biélorussie, justement tout à l'heure, où il aurait pu aller chercher de la chair à canon du côté de la Biélorussie notamment, mais jusqu'à présent, Loukachenko à Dignette, il fait front, et on sent que c'est là qu'il y a un divorce par rapport à la période de l'Union soviétique, où des pays alliés qui le soutenait largement, ben là, il ne trouve plus d'écho de ce côté-là non plus.
Alors, attendez, avant de parler, avant de vous entendre, parce qu'il faut quand même écouter Loukachenko, la bourde de Loukachenko aujourd'hui...
La bourde, ou l'impensé de Loukachenko.
Oui, effectivement, ou l'acte manqué de Loukachenko.
Il impense beaucoup.
On va poser les choses. Il y avait hier... sommet en Arménie entre Poutine et ceux qui sont censés être ses principaux alliés, et notamment la Biélorussie, qui sont tous regroupés au sein de l'organisation du traité de sécurité collective, qui est une sorte d'OTAN russe, de mini OTAN russe. Et donc Loukachenko s'avance face à la presse et lui-même, parmi les hypothèses qu'il évoque, il évoque la fin de la Russie. Regardez.
Si la Russie l'emporte, l'OTSC vivra. Si Dieu nous en préserve, elle ne gagne pas, l'OTSC cessera d'exister. Si la Russie s'écroule, notre place à tous est sous les décombres.
Elzavidel, si la Russie s'écroule, notre place à tous est sous les décombres. Il est censé être le principal allié de Vladimir Poutine.
Mais très réticent. C'est un allié très réticent depuis toujours. En quoi a-t-il raison ? Il a raison, c'est-à-dire que Loukachenko, il est encore plus ancien au pouvoir que Vladimir Poutine. C'est-à-dire Loukachenko, c'est un produit de l'Union soviétique, c'est un survivant de l'Union soviétique. Il fait, en dictateur, il fait à peu près tout ce qu'il est possible de faire pour se soustraire à une embrassade qu'on lui impose et limiter autant que faire se peut, mais en allant quand même très loin, sa contribution à cette guerre. Donc effectivement, si le pouvoir venait à changer en Russie, et notamment par une libéralisation, Loukachenko disparaîtrait corps et bien. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont présents autour de cette table, à commencer par le Premier ministre arménien, qui devrait être défendu en principe par la Russie, mais une Russie qui n'a jamais cherché à résoudre les conflits dans lesquels elle intervient comme médiateur, mais à les entretenir pour pouvoir les activer au moment voulu. Donc, l'homme qu'on voit justement accompagner Vladimir Poutine, c'est quelqu'un pour qui Vladimir Poutine a plutôt du mépris, qui est arrivé au pouvoir par un mouvement populaire. C'est exactement ce que Vladimir Poutine veut éviter dans son environnement immédiat. Donc cet homme-là pourrait tout à fait rester au pouvoir si l'Union autour de la Russie disparaissait, si Vladimir Poutine était contraint de quitter le pouvoir, si donc la Russie perdait.
On va revenir sur le Premier ministre arménien parce qu'on a une scène qui est absolument absolument géniale aussi. Pour symboliser l'isolement de Poutine vis-à-vis de ses alliés. Mais simplement, Pierre Servent, si la Russie s'écroule, notre place à tous est sous les décombres. Le diagnostic, il est assez lucide de Loukachenko.
Absolument. Alors, ce n'est pas la première fois. Il a fait à plusieurs reprises des petites déclarations, une notamment sur le nucléaire. Il faut dire que son pays a reçu une partie du nuage de Tchernobyl. Donc, quand on parle de nucléaire, ils sont un petit peu sensibles. Et il avait eu des déclarations, l'air de dire, non, il ne faut pas commencer à jouer avec ça. Et puis aussi, c'était au début de la guerre, enfin quand les Russes se sont retirés de tout le Nord, une phrase du style, enfin je parle de mémoire, mais en gros c'était de dire « Ah bon, c'est ça la puissance russe, bon mais il faudrait peut-être quand même voir si on ne peut pas trouver une autre solution ». Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un constat incroyable. Et en tout cas, ça montre une chose, c'est que Loukachenko, dont on n'arrête pas de dire depuis des mois qu'il pourrait rentrer en guerre, il va binommer des bataillons avec les Russes, etc., vous avez rien du tout, parce que alors il semblerait aussi que depuis le début de la guerre, certains pays occidentaux lui fassent passer des messages, des messages formulés sous l'angle t'as pas bien compris ce qui se passe, et si tu restes là où tu es, les décombres de la Russie poutinienne, tu vas les prendre sur la figure. Donc c'est intéressant c'est effectivement le fait qu'il ait peut-être lâché le type de formulation voilà, au milieu de ce cénacle-là. Bon, mais je pense que Vladimir Poutine devrait rentrer au Kremlin, ne plus en sortir, puisque quand il n'en sort pas, ben, il se fait tacler par ceux qui sont présents comme au G20. Et quand il sort, là, il se ramasse quand même un truc en pleine figure. Ce qui est tragique, c'est que, si vous voulez, Poutine est en train de détruire l'Ukraine de multiples crimes de guerre. Voilà, oui, et en même temps, quand on voit ça, quand on voit sa scène avant, on a envie de rire, quoi. C'est une espèce de mauvais film. Alors, les dialogues sont moins bons que ceux d'Audiard, mais c'est quand même assez consternant.
On voit la scène.
Loukachenko, il doit son maintien au pouvoir à Vladimir Poutine. C'est aussi pour ça que cette phrase est intéressante. C'est-à-dire que si la Russie s'effondre, on s'effondre tous. Il parle d'expérience, parce que lui, si Poutine n'avait pas été là, il ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Il est très impopulaire dans son pays.
La scène que l'on veut voir ce soir, la voici. Ce sont donc les dirigeants, les alliés de Poutine autour de lui. Sauf que regardez le monsieur que l'on va voir au centre de l'écran, qui va tout faire pour ne pas être proche de Poutine. C'est le premier ministre arménien que l'on va venir voir se placer et faire un petit pas de côté sur sa droite pour s'écarter de Poutine. Le voilà, il se met au centre de votre écran. Regardez, il ne veut pas. Et on a un Poutine qui physiquement est isolé, on le voit, qui est isolé de ses alliés. La scène, Patrick Sauce.
Ça se passe à Erevan.
Ça se passe en Arménie. En Arménie. Enfin, voilà. Voilà comment est reçu Poutine en Arménie.
Il faut rappeler le contexte, parce que c'est parce que ce que reproche le Premier ministre arménien, c'est le fait que la Russie n'est pas venue au secours de l'Arménie dans ce conflit avec l'Azerbaïdjan. Donc, il y a aussi cette crédibilité de la Russie qui s'écroule.
Alors, c'est surtout ça, d'ailleurs. Enfin, il ne faut pas totalement se méprendre. L'Arménie, elle ne vient pas de prendre fait et cause pour l'Ukraine.
Bien sûr.
Non, elle pense à son conflit avec l'Azerbaïdjan et au parapluie russe qui s'est brutalement refermé ou qui ne s'est jamais ouvert. Et donc, c'est d'abord ça. Il faut prendre quand même les intérêts des uns et des autres. Vous avez également le président Tokayev, qui est le deuxième à partir de la gauche, le président kazakh. Lui aussi, il a eu besoin de Vladimir Poutine. Il a même reçu de l'aide de Vladimir Poutine. Et ben, il regarde non pas l'Ukraine, mais son propre intérêt. Il a reçu les Russes qui ont refusé la mobilisation, qui ont fui. Et même si son pouvoir tient à un fil, c'est un grand pays, le Kazakhstan, mais... il a peut-être entendu ce qui s'est dit à la Douma aujourd'hui ou hier avec l'un des députés les plus extrémistes qui a dit le prochain c'est le Kazakhstan. On a essayé d'envahir l'Ukraine, le prochain pays à dénazifier, c'est le Kazakhstan, Baïkonour aussi, enfin entre autres. Mais donc ils sont là pour leur propre intérêt et surtout ils voient que à côté il y a un bateau qui est en train de couler. Ils ont surtout envie de quitter le navire. Je les ai pas traités de rats, mais vous voyez, ils sentent la dynamique. Si Vladimir Poutine était en train de gagner la guerre, on serait sans doute dans des chaudes poignées de main.
Mais, Colonel Goya, Poutine sans eux, qu'est-ce que ça change pour Poutine?
Pas grand-chose, mais constater qu'il n'y a aucun État de l'ancienne Union soviétique qui vienne en aide, franchement, à la Russie. C'est quand même assez significatif pour un pays qui se dit agressé, enfermé, malgré lui, par l'avancée de l'OTAN, par menacé de tous les côtés. Bah, il s'aperçoit que ses anciens alliés, ou même les anciens membres de l'Union soviétique ou les anciens satellites, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là du tout. Donc, normalement, ça devrait poser quand même quelques questions. Mais bon, c'est pas le genre. Mais pour l'instant, il change pas grand-chose. Ça pourrait, s'il y avait effectivement un engagement massif de ces pays du Kazakhstan ou de la Biélorussie, bien sûr.
En termes d'hommes, de moyens, etc.
Oui, alors c'est pas si. L'armée biélorusse, par exemple, c'est que dalle. 10 000. C'est rien. Puis elle serait balayée, par l'armée actuelle ukrainienne, elle serait balayée très vite. Pour l'instant, elle sert un peu de réservoir, d'ailleurs, de réservoir matériel pour l'armée russe. Elle est peu copieusement pillée. Et inversement, on utilise ces camps pour former justement les mobilisés russes qui partent en camp d'entraînement. Et en gros, la Biélorussie sert un petit peu de menace au nord de l'Ukraine. Voilà.
Ouais. La plupart n'ont pas reconnu les annexions, d'ailleurs, des annexions des républiques ukrainiennes. Et la France et l'Europe mènent une offensive à destination de ces pays, puisque Emmanuel Macron a reçu le président ouzbek. Je crois qu'il va recevoir le Kazakh la semaine prochaine. Et là, il y a une fenêtre d'opportunité aussi pour les Occidentaux pour détacher ces satellites, ce qui aurait comme résultat paradoxal que Poutine rêve de reconstituer l'Union soviétique et qu'en fait, arriver à achever le démantèlement de l'Union soviétique.
De même qu'il voulait affaiblir l'OTAN, il a renforcé. De même qu'il obtient tout l'inverse de tout ce que...
Et il sera aidé en cela, je pense aussi fortement, par la Turquie, parce que le plus grand concurrent de la Russie dans cet espace, c'est d'abord la Turquie, qui a repris une offensive en direction des pays de langue turcique, ce qu'elle avait complètement abandonné après le début des années 2000, et qui est aussi le grand gagnant en fait, du non-règlement du conflit du Karabakh il y a 2 ans. Donc, on a cette concurrence très accrue en Asie centrale. Et puis, on se réjouit malgré tout, en quelque sorte, du découplage du Kazakhstan avec la Russie. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que le Kazakhstan essaye de jouer un jeu à plusieurs bandes. S'appuie sur l'Europe, effectivement, va être reçu, mais s'appuie aussi beaucoup sur la Chine.
Et puis, en
l'échange de son silence sur les Ouïghours. Donc, voilà.
Toujours regarder les cartes. Et se déplacer, pas
toujours revenir aux cartes.
Toujours en faveur de la population civile.
Toujours revenir aux cartes et à la publicité, Pauline Simonet. Puisque tout le monde veut parler à tout prix du Kazakhstan, on a une pub kazakh ce soir.
Oui, effectivement, une publicité qui tourne en ridicule les Russes. Alors, on va replacer un peu le contexte. Il y a effectivement ces Russes qui fuient au-delà de la frontière dans plusieurs pays voisins. Et notamment au Kazakhstan, il y a au moins 200 000 Russes qui ont trouvé refuge depuis la mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine. Et le président kazakh, d'ailleurs, a ouvert grand les portes, a annoncé qu'il viendrait en aide à ces Russes. Et il y a une publicité pour du chocolat qui met en scène l'arrivée d'un migrant russe en plein milieu des montagnes qui est pris en charge par un valeureux cavalier kazakh. On regarde.
Qu'est-ce que c'est ?
Le goût de la liberté.
Goût свободы. Шоколад казахстанский. Почувствуй вкус свободной земли.
Et le voilà avec son chocolat. Pierre Servan, c'est donc les Kazakhs qui expliquent aux Russes quel est le goût de la liberté.
Oui, c'est assez... Le symbole et puis le montage de la pub est assez... amusante, et le président kazakh Tokayev, qui effectivement au début de cette année avait fait appel à Poutine à la suite non pas de ce que Poutine décrivait comme toujours une attaque de l'étranger, etc., mais beaucoup plus une problématique interne aux anciens réseaux de Nursultan Nazarbayev, qui avait été le grand dictateur de la région. Tokayev a dit lors de la rencontre que vous avez évoquée, il faudrait peut-être que les frères ukrainiens et russes se réconcilient. Sous-entendu, il faut que les Russes arrêtent de massacrer leurs frères. Ça montre une chose, ça montre que ces chefs d'État qui ont leurs problématiques, qui ne sont pas des perdreaux de l'année, je pense qu'ils sont quand même assez fondamentalement choqués. Parce qu'ils ont accès aux mêmes images, ils ont même leurs services de renseignement qui rapportent. Ils voient aussi les Russes qui viennent chez eux. Et encore une fois, même s'ils ont le cuir épais, c'est quand même hallucinant. Ce dans quoi Poutine s'engage, quand on pense qu'en fait il est en train d'appliquer ce qu'il appliquait à la Tchétchénie ou à la Syrie, qui nous a pas beaucoup émus, entre parenthèses, on a peut-être des leçons à tirer de cela. Donc il y a ce choc-là.
Ils n'ont pas envie d'être les prochains sur la liste non plus, éventuellement.
Alors, voilà, il y a ça aussi. Il y a eu des mini-protestations lors de ce sommet pour dire arrêtez de nous traiter comme de la valetaille, etc. Et en ce sens, si Poutine restait au 20e siècle, au milieu du 20e siècle, on est au 21e siècle et même ces pays-là, ils sont. Donc il y a un étirement entre les deux. Le problème, c'est que plus Poutine est confronté au réel d'une façon extrêmement brutale, et cette pub, elle est quand même une claque en pleine figure. C'est le chocolat de la liberté des Américains.
Ouais, c'est
ça. 45, etc. Voilà,
oui,
exactement.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Et donc, le problème, c'est que comme Poutine est complètement un homme du KGB ou la culture de l'homme fort, aussi ce que je détaille
dans le livre.
Vous
en parlez, absolument.
Et sédimenté, l'homme fort, s'il cède, il meurt. Donc c'est la culture du dominant-dominé. Il se prend pour un mâle dominant. Mâle dominant, il est malmené. Et donc c'est toute la difficulté de la suite et des mois qui arrivent devant nous. Psychologiquement, je pense qu'il ne peut pas lâcher, il ne veut pas lâcher. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va nous entraîner.
Vous reprenez effectivement dans le livre un certain nombre de scènes qu'on a beaucoup vues. Parce que de la pub aussi là, avec Poutine torse nu, etc., qui arrive très viril, etc. Et votre conclusion, alors pas direct, mais votre conclusion, c'est de dire, faut pas se leurrer sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Il ne négociera pas. Poutine ne s'abaissera pas à ça.
Oui, enfin c'est ma conviction, surtout avec un Zelensky qualifié de juif, qualifié de nazi alors qu'il est de confession juive, etc. Pour le livre, j'ai interrogé notamment des chefs d'entreprise européens qui ont beaucoup travaillé avec les Russes et ils m'ont dit des choses très intéressantes. Ils me disent c'est souvent très sympathique, il faut avoir un estomac assez blindé pour assumer les négociations bien arrosées, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un accord gagnant-gagnant. Et il faut qu'il y ait un dominant et un dominé. Ce qui fait que dans les deals, les Européens construisent une partie du deal qui est faux pour faire croire à la partie russe qu'effectivement, ils ont vraiment bien gagné la partie. Sinon, ils sont capables de casser un deal qui est tout à fait intéressant pour eux s'ils n'ont pas cela. Ça, c'est lié, je parle sous votre contrôle, à la culture russe, à la culture soviétique, notamment à la culture du goulag, dominant, dominé, qui a irrigué la société. Et donc, moi, j'y vois un point de blocage majeur, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est pas la démocratie selon Poutine. Ce qui est à moi, ce qui est à toi, je vais te le piquer. C'est pas exactement ça, la base de la négociation. C'est pour ça, entre parenthèses, que j'ai acquis très, très rapidement, dès le début de l'année, la certitude que Poutine attaquerait l'Ukraine, parce que la fausse séquence diplomatique consistant à mettre des faux traités, des faux projets de traités, qui étaient justement des projets fermés, où c'est Poutine qui dit, voilà, vous vous ralliez à ma position et puis on va s'entendre. Ça ne peut pas marcher. Donc, je crains que l'option guerre, avec, le fait que comme ça ne marche pas, il va remettre un peu le couvert, je pense qu'on n'en est pas complètement sorti.
Elsa Vidal, je te laisse la parole pour répondre à Pierre Servent, et après on parlera de massage.
Oui, moi je... D'accord pour le massage, mais non, ce que je voulais dire, c'est que dans cette publicité kazakh, il y a quelque chose de très fort. C'est, à la fois, on est vraiment face à une capacité de récupération de l'histoire, mais de manière extrêmement rapide. Il y a tout un contentieux qui se joue. En fait, si on fait un parallèle, c'est un peu France-Algérie, et le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, les Tadjiks aussi en Russie. Ce sont le gros de l'émigration économique. Et en Russie, il n'y a pas une ville qui fonctionne sans eux pour faire le taxi, pour être coursier dans les magasins. Et donc, on voit cette publicité, naturellement avec un hipster russe et puis un cavalier de la steppe khazare. Mais il y a aussi beaucoup de blagues qui circulent sur l'Internet où on se moque des nouveaux chauffeurs de taxi arrivés en Asie centrale qui sont des Russes, comme avant en Russie, à Moscou. On se moquait des Tadjiks et des Kazakhs qui venaient à Moscou faire le taxi. Qui connaissaient pas du tout la ville, et ben là maintenant c'est mon Dieu, mais toi t'arrives à prendre des taxis avec des Russes parce qu'ils connaissent pas du tout Almaty, c'est l'enfer quoi. Bon voilà, il y a ce retournement. Je pense qu'on est quand même au cœur d'une idéologie qui est la confrontation entre un empire qui se vit encore comme un empire, qui se vit comme un centre de pouvoir exposé à des périphéries qui devraient faire allégeance et qui ne se rend pas compte que il y a des gouvernances tout à fait différentes qui sont mises en place aujourd'hui, que ce qui était auparavant des provinces sont maintenant des États capables d'opérer des choix basés sur leurs propres intérêts. Et peut-être en ce sens, on aurait aussi des choses à entendre quand on est concurrencé en Afrique en tant que pays ancienne puissance colonisatrice, apporter des solutions qui seraient basées sur notre capacité à être attractif pour les pays africains, ça pourrait nous éviter des déconvenues comme les Russes en rencontrent en Asie centrale.
Je sens que je vous appâte avec mon histoire de massage. C'est un peu moins drôle que ce qui m'y paraît. On va parler avec vous, Antonin André, du masseur de Poutine. On avait le cuisinier avec Prigogine. On a maintenant la figure du masseur de Poutine. Il faut nous parler de lui. On va le dire tout de suite, il a disparu.
Oui, alors il s'appelle Konstantin Goloshapov. Il a 67 ans. Alors il a connu Vladimir Poutine dans les années 80 sur les tatamis. Voilà, vous les voyez ici au club de judo de Saint-Pétersbourg. Et il se trouve que Goloshapov a une formation d'infirmier et que Poutine avait un peu mal au dos. Donc il prodiguait des massages à Vladimir Poutine. Et il a intégré comme ça le premier cercle de Vladimir Poutine avec ce qu'on appelle la bande de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire tous les oligarques qui sont originaires de là-bas et avec qui Poutine a grandi et a construit sa puissance. Et donc, notre ami Goloshapov se lance dans les affaires, les assurances, la banque. Il masse d'autres élites aussi au club de judo, parce que ses talents sont reconnus comme tels. Et c'est un homme de l'ombre qui va quand même prendre une influence très forte dans l'entourage de Vladimir Poutine, qui va prendre du galon, qui va devenir assez puissant. Et puis, mystérieusement, il est tombé en disgrâce au printemps dernier. Alors, on ne sait pas exactement pour quelle raison, mais comme tous ces oligarques et hommes d'affaires qui, mystérieusement, se sont suicidés au fur et à mesure que la guerre se développait en Ukraine. Et donc, il a quitté en catastrophe la Russie par la Biélorussie, la veille d'une perquisition où on était venu l'arrêter. Voilà, il est passé à la frontière biélorusse.
On a même la photo,
voilà. Alors, on ne voit pas sur cette photo, mais les caméras de vidéosurveillance sur un autre angle croient déceler le fait qu'il fasse un doigt d'honneur.
Pardon. Ne le faites pas, vous êtes malade ou quoi?
Un doigt d'honneur comme ça. Et donc,
oui, on avait compris. Sorte, on avait compris. Hein.
Comme une sorte d'au revoir à son ami Vladimir Poutine. En tout cas, tu ne m'as pas attrapé, je suis parti. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Peut-être qu'il est à Minsk et que le président biélorusse va pouvoir profiter de ses talents de masseur. Mmh. Ça a quand même laissé des conséquences derrière lui, puisque son fils a été assassiné quelques jours plus tard. Mmh. Et donc, lui, par contre, s'est évaporé dans la nature. C'était un des très proches de Poutine. On lui souhaite d'échapper à un suicide ou à une pendaison une chute dans l'escalier dans les jours qui viennent. Mais enfin, voilà, c'est une figure du régime de Poutine qui aujourd'hui a réussi à s'évaporer dans la nature.
Une figure et son fils, donc assassiné. Son jeune fils qui lui-même était homme d'affaires, oui, etc. Absolument. Très riche, très jeune, mais qui vient s'ajouter, Patrick, à une longue liste de morts troubles. Alors, je veux dire, depuis le début de la guerre, ça a commencé bien avant évidemment, mais il y en a eu un certain nombre depuis le début de la guerre.
Oui, alors des morts troubles. L'entourage de Vladimir Poutine n'a pas attendu le 24 février. Ouais. C'est monnaie courante, les assassinats, les morts troubles, les chutes dans les escaliers. Oui, c'est venu en plus. Est-ce que ce sont d'étranges coïncidences? On pourrait même avancer quelques noms dans les états-majors, parce que oui, il y a des généraux qui sont morts sur le front, puis il y en a d'autres qui ont bizarrement disparu aussi. Oui, il y a une façon de... Enfin, on est obligé de déceler simplement des coïncidences. On ne va pas tirer de plan sur la comète, mais effectivement, ça fait demi-sourire parce qu'on est obligé, nous aussi, de revenir dans les livres d'histoire et de ce qui se passait.
Ce sont parfois des hommes qui en savaient trop. Hommes qui en savaient trop, qui ont trop de secrets, quand ils sont trop proches de Poutine et du Kremlin, qui ont trop de secrets et dont on ne voudrait pas un jour qu'ils puissent les révéler. C'est aussi une façon de les faire taire jamais.
De façon préventive.
Voilà.
Et à chaque fois, ce que ça raconte aussi Pierre Savant, c'est la manière dont Poutine s'est construit. Comment c'est, son entourage s'est construit une fortune au fur et à mesure, et puis à un moment donné, la disgrâce.
Oui, effectivement, voilà, c'est le, dans mon livre, je l'appelle Vladimir Ier. Mmh. C'est vraiment un système de cours avec ceux qui sont dans le premier cercle, ceux qui sont très loin, comme Medvedev, qui ont été écartés à la suite notamment d'une présidence que Poutine a jugée calamiteuse avec l'affaire notamment de la Libye, de la résolution de l'ONU. Et c'est pour ça que Medvedev multiplie les déclarations fracassantes, en nous traitant de tous les noms, machin, etc. Voilà, en se disant, voilà, en éructant, dans la mesure où le pouvoir est hystérique, je vais peut-être pouvoir me rapprocher du centre. Donc vous avez ces phénomènes de cours assez classiques. Les grandes interrogations, c'est sur la psychologie de Poutine. Est-ce qu'effectivement, la période du Covid l'a vraiment atteint dans une sorte d'enfermement mental? Toutes les spéculations autour du fait de pouvoir le renverser ou pas, ce dont je doute, les oligarques qui l'ont connu et qui ont fait dissidence disent qu'en fait, il a embarqué, c'est une phrase que je cite aussi dans mon livre, il a embarqué son entourage proche dans un sous-marin, et la caractéristique du sous-marin, c'est que quand il est en plongée, vous ne pouvez pas descendre.
Donc là, on est en phase de plongée.
Voilà.
Pour eux, ils sont en phase de plongée. Elsa Vidal, le côté mafieux, le caractère mafieux, on le voit encore une fois renforcé avec ce que l'on voit là, avec une fortune qui se crée dans tous les domaines d'ailleurs, effectivement, les assurances, l'immobilier, etc. Fortune absolument colossale, sauf qu'à un moment donné, la corde lâche et Poutine dit stop. On peut imaginer ça, en tout cas, dans ce cas-là.
Oui, on peut aussi imaginer que cet homme ait voulu fuir avec de l'argent qui ne lui appartenait qu'à moitié.
Et que pour l'instant. Et encore à moitié, vous êtes généreux.
Peut-être, oui. Et que pour l'instant, il a pu échapper à ce qu'il poursuive. Il y a évidemment, dans le caractère extrêmement opaque des groupes qui se partagent les ressources du pays, des gens qui gravitent et qui sont là pour l'appât du gain. Et ça fait partie des caractéristiques assez bien décrite, notamment par des chercheurs ou des auteurs russes. Il y a un livre d'un auteur qui s'appelle Mikhail Zigar, Les Hommes du Kremlin, qui explique très bien de quoi est constituée cette galaxie, quels sont les profils, avec les proches qui remontent à Saint-Pétersbourg, ceux qui se sont greffés au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs strates. Et puis il y a ces personnages très très hauts en couleur. Donc oui, il y a un caractère kleptocratique, c'est-à-dire des gens qui sont là pour faire main basse sur les ressources du pays. et rendre des services en échange de quoi ils peuvent s'enrichir. Mais c'est aussi une conception du pouvoir qui est par nature excessive, par nature sans contre-pouvoir, avec une société civile qui vit en marge, avec un peuple... C'est-à-dire que le pouvoir est nécessairement corrompu, corrupteur, et donc les affaires humaines sont en général aussi corruptrices. Donc il y a une forme de tolérance aussi dans la société russe. On espère qu'elle change sous l'effet de nouvelles générations, mais il y a une tolérance vis-à-vis de ces excès du pouvoir qui sont conçus comme inévitables.
Mais à quel point, Patrick Sauce, Poutine a besoin, j'allais dire de son masseur, bon, voilà, mais a besoin de ces personnages-là.
Un masseur, un cuisinier.
Oui, il y a un cuisinier, un masseur, un cuisinier, on peut faire la liste.
Toute la tendance.
Comme Prigogine, oui, il faut la tendance suivre, évidemment.
Garde du corps, qui est le patron de la garde nationale, qui est garde prétorienne.
Oui, c'est son garde du corps.
Mais à quel point est-ce qu'il a besoin de ces personnages-là pour se maintenir au pouvoir?
Alors, on s'est quasiment devenu un lieu commun. Oligarque ou oligarchie, enfin, rappelons tout de même ce que ça veut dire. C'est le pouvoir dans les mains de quelques-uns. Eh bien, on y est. Il y a une autocratie, c'est Vladimir Ier aussi à la tête de cette autocratie. Mais il y a un système, oui, qu'on peut qualifier de mafieux, mais encore une fois, un système qui est eh bien, canalisé, volé, kleptocratie, on fait beaucoup de grec et de latin, par peu d'hommes. Singulièrement des hommes, peut-être une femme ou deux en plus. Voilà. Et effectivement, c'est un système et pas seulement un homme. Et si ce système s'écroule, comme dit Alexandre Loukachenko, effectivement, ça peut aller très vite. Mais pour l'instant, il ne s'est pas encore écroulé. Hein.
Oui.
Loin de là.
Et à quoi il peut servir? On voit dans ce groupe de Saint-Pétersbourg mafieux, Prigogine dont on parlait, petit à petit, tout d'abord, on va dîner dans ses restaurants, puis ensuite, cet homme, il finit par créer une boîte de trolls qui va faire de l'ingérence électorale partout dans le monde et créer une armée, une milice armée.
Et peut-être faire de l'ingérence au Kremlin, d'ailleurs.
Voilà, exactement, oui. Parce que, pour l'instant, ce sont des amis, faire la guerre en Ukraine, peut-être à créer un parti politique et voler ses propres ailes, mais en tous les cas... Il est clairement utile sur le terrain aujourd'hui.
Et il n'y a pas de signe, Pierre Servent, aujourd'hui, au-delà de la fuite du masseur, que ce système-là soit en train de s'effondrer, de s'effriter.
Non, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas de signe. Il y a des signes de tension dans le système entre le ministre de la Défense Shoigu, par exemple, et Prigogine, donc le créateur de Wagner, qui est en train de recruter à tour de bras dans les prisons. C'est un contentieux ancien, d'ailleurs, qui remonte à la Syrie, où Prigogine avait considéré que les miliciens Wagner n'avaient pas été suffisamment protégés par l'armée et avaient essuyé des pertes importantes de fait de frappes américaines. Et entre parenthèses, à l'époque, en Syrie, Prigogine s'était assez bien entendu avec un général qui s'appelle Sourovikine et qui est le généralissime des opérations là. Ce qui fait que on sent bien les tensions, les jeux de pouvoir. Et quand on interroge vraiment des très bons spécialistes, même s'ils avouent que c'est compliqué de savoir ce qui va se passer, ils considèrent que demain matin, on peut avoir sur les écrans de télévision russes un triumvirat avec le patron du SVR ou du FSB, un général et un oligarque expliquant que le président Poutine, très courageusement, a lutté contre une grave maladie depuis longtemps, s'est retiré à Sotchi, et ça peut se passer réellement. Et ces spécialistes me disent, on mettra 5 ou 10 ans avant de savoir comment les connexions
comment ça s'est
sont
passé
pour arriver à ce résultat.
On arrive au bout. On reste sur cette image. Effectivement, merci beaucoup Pierre Servent d'avoir été avec nous ce soir. Le monde de demain, c'est le livre que vous publiez donc aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous. Merci Patrick, Colonel, Elsa, merci. Antonin et Pauline. Merci à toutes et à tous. Dans un instant.